Le crime de Sylvestre Bonnard, d'après Anatole France, lecture clé en français facile, copyright clé international 2024. Chapitre 1. Une rencontre imprévue. 8 août. Quand je descends de voiture à la gare de Melun, la nuit tombe. Mon sac de voyage, que ma gouvernante a rempli de linge et d'objets de toilette, me semble léger. Je le secoue comme un écolier agite, après la classe, son cartable. Après un demi-siècle, des souvenirs me reviennent sous ce ciel étoilé. Je sens s'éveiller en moi un regret douloureux. Étoile, je voudrais avoir un fils de 20 ans, le fils de Clémentine, dont les joues étaient si fraîches. Mais elle a épousé un banquier, ce Noël Alexandre, qui gagne des millions. Je ne vous ai pas revu depuis votre mariage, Clémentine, et je vous vois toujours avec vos boucles blondes. Clémentine, par cette belle nuit, je pense à vous. J'espère que vous êtes heureuse, au bras de votre riche époux, que vous m'avez préféré. Bonjour, monsieur Sylvestre Bonnard. Donnez-moi votre sac et montez en voiture près de moi. Savez-vous qu'il y a, d'ici au château, 7 kilomètres ? Qui me parle ? Monsieur Paul de Gabry, neveu et héritier de Monsieur Honoré de Gabry, qui vient de mourir à Monaco. Cet excellent jeune homme a hérité, avec ses deux beaux-frères, des biens de son oncle, qui possédait dans son château de Luzance une bibliothèque de manuscrits anciens. Je viens à Luzance pour inventorier et cataloguer ses manuscrits, car je connaissais Honoré de Gabry. Le fils n'a pas les mêmes goûts que son père. Il préfère le sport. « Je ne m'y connais pas en parchemin, » me dit-il, « mais vous trouverez chez nous quelqu'un avec qui en parler. Ma femme. Elle n'est pas très instruite, mais elle comprend beaucoup de choses. Je vous ferai aussi rencontrer Mademoiselle Jeanne, qui a des doigts de magicienne et une âme d'ange. » « Cette demoiselle, dis-je, est de votre famille ?»« Non, » répond Monsieur Paul. « Elle n'a pas de père et pas de mère. Son père nous a causé des ennuis, mais rien de très grave. » Il secoue la tête et parle de l'état du parc et du château, resté désert depuis 32 ans. « Mon oncle est mort l'an passé, à Monaco, et nous sommes entrés les premiers, mon beau-frère et moi, dans son château abandonné depuis 32 ans. Nous avons trouvé un arbre, un marronnier, au milieu du salon. » Il se tait. Tout à coup, le château apparaît. Nous entrons et Monsieur Paul m'amène à ma chambre. Puis, il me souhaite le bonsoir. Le lendemain, pendant le déjeuner, je découvre l'intelligence de Madame de Gabry. Le château, abandonné depuis 32 années, ne semble pas très abîmé. Mais quand j'entre dans le grand salon du rez-de-chaussée, je vois les planchers et les peintures abîmées. Un marronnier qui a soulevé le parquet a grandi là, et il tourne vers la fenêtre ses larges feuilles. J'espère que la belle bibliothèque de M. Honoré de Gabry, qui se trouve dans une pièce voisine, est en bon état. 11 août. Dieu soit loué. La bibliothèque n'est pas très abîmée. Je classe toute la journée des manuscrits. La cloche, qui sonne le dîner, me surprend. Le repas se prolonge. Monsieur de Gabry ouvre un grand vin. Il me raconte un problème qu'il a avec la commune. Madame de Gabry frissonne sous le châle que son mari lui a jeté sur les épaules et part dans sa chambre. Je décide de retourner dans la bibliothèque pour continuer l'examen des manuscrits. Après avoir lu 15 pages, mal écrites, je plonge la main dans la poche de ma veste pour prendre ma tabatière. Mais ce mouvement me demande un peu d'effort et de fatigue. Puis, je m'endors. Je rêve d'une petite personne assise sur le dos d'un livre, un genou replié et une jambe qui pend. Elle est très petite. Elle ressemble à une reine, mais une reine capricieuse. Ses yeux bleus rient d'une façon inquiétante. Cette dame est très blonde. Ses vêtements sont très beaux. Une robe de tissu d'or et d'argent et un manteau de velours. Sa petite main blanche tient une baguette. C'est une baguette de fée. La dame est donc une fée. Je me frotte le visage qui est plein d'encre. La fée a disparu. Ma lampe s'est éteinte. Un rayon de lune traverse la vitre. Un vent frais fait voler crayons et papiers. Ma table est pleine d'encre. J'ai laissé ma fenêtre entrouverte pendant l'orage. Quelle imprudence! 12 août. J'ai écrit à ma gouvernante que j'étais bien arrivé et que tout allait bien. Mais je ne lui ai pas dit que j'avais un rhume depuis le soir où je me suis endormi dans la bibliothèque. Je l'entends déjà. À votre âge, monsieur, être si peu raisonnable! En revanche, je raconte mon aventure à la bibliothèque à Madame de Gabry. « Votre rêve, me dit-elle, est charmant. » Les jours suivants, je continue l'inventaire des manuscrits de la bibliothèque. Un jour, j'entre dans le grand salon. Sur un meuble, je vois quelque chose d'incroyable. Je remets mes lunettes sur mon nez et je me touche pour être certain que je vais bien. J'ai, devant les yeux, la fée dont j'ai rêvé l'autre soir, dans la bibliothèque. Elle a encore son air de reine. Elle tient dans la main sa baguette. Même visage, même taille. C'est bien elle, et elle est assise sur le dos d'un vieux et gros bouquin. Je suis là, la bouche ouverte, quand j'entends la voix musicale de Madame de Gabry. « Vous regardez votre fée, monsieur Bonnard ? La trouvez-vous ressemblante ? » Ma fée est une statuette faite avec beaucoup de goût et de sentiment par une main novice. Je me tourne vers Madame de Gabry et je m'aperçois qu'elle n'est pas seule. Une jeune fille, vêtue de noir, se tient près d'elle. Elle a de grands yeux intelligents, d'un gris doux. Cette enfant me plaît tout de suite. Elle n'est pas belle, mais toute sa personne a quelque chose de brave et de bon. Mes regards vont de la statuette à la fillette qui rougit. « Eh bien, me dit Madame de Gabry, est-ce bien la fée que vous avez vue ? C'est elle. J'ai raconté ce que vous m'avez dit à Mademoiselle Jeanne, qui a ensuite fabriqué la statuette. » Madame de Gabry prend la main de la jeune fille, mais la jeune fille s'enfuit dans le parc d'un pas léger. « Petite folle ! Crie Madame de Gabry. « Venez qu'on vous embrasse !» Mais la jeune fille disparaît dans le feuillage. Madame de Gabry s'assoit. « Je me doute, me dit-elle, que mon mari vous a déjà parlé de Jeanne. Nous l'aimons beaucoup, et c'est une bonne enfant. Jeanne est une pauvre orpheline. Vous êtes notre amie, je peux tout vous dire. » Le père de cet enfant était un ami banquier. Il faisait de grosses affaires, mais il a tout perdu. Il est mort peu de mois après sa faillite, dans laquelle nous avons perdu, nous et l'oncle de mon mari, beaucoup d'argent. Vous devez connaître son nom, qu'on a lu dans les journaux, Noël Alexandre. Sa femme était très aimable. Elle est morte un an après lui, et Jeanne est maintenant seule au monde. Clémentine. Je comprends que Clémentine est morte. Un grand silence se fait en moi. Madame de Gabry murmure « Cet enfant est pauvre. » « La fille de Clémentine est pauvre, » dis-je. « Je m'occuperai de sa dot. » Je m'approche de Madame de Gabry qui s'est levée. Je lui prends la main droite, j'embrasse cette main et je dis « Vous m'emmènerez sur la tombe de la veuve de Noël Alexandre. » Madame de Gabry me dit alors « Pourquoi pleurez-vous ?